quelques jours plus tard.
Quelques jours plus tard, en effet, délai qui, mes chers auditeurs, s'est fait pas moins que le porteur d'une bonne nouvelle, puisque c'est encore à Voisinia que nous retrouvons Sandrine, Kouni et Choix. Car oui, voyez-vous, il s'était trouvé que nos trois merveilleuses bourlingueuses avaient entre-temps réussi à se créer une situation tout à fait correcte, oui. Ceci d'ailleurs, non seulement pour l'époque, mais également pour l'endroit, hein.
En tout cas, on n'a encore croisé aucun Kellimson ici, donc à partir de là, ça ne peut qu'aller bien.
Bref, nos trois amis avaient pu négocier assez rapidement la location d'un appartement. Alors certains le dit logement était exigu, vétuste, miteux, mal isolé, sans fenêtre ni commodité, mais il compensait néanmoins très efficacement ces quelques légers manquements en étant situé pas très loin d'une fontaine d'eau potable et d'un kiosque à marrons chauds ouvert l'hiver. Mais outre la location de ce logement, la bonne fortune voulut que nos trois amis arrivassent dans la cité aux deux sphinx à un moment propice, hein, car ce fut peu après qu'une chose arriva, oui. Voyez-vous, ce qui ne fut d'abord qu'un simple ragot échangé entre marchands ces jours-là allait finalement prendre de l'ampleur et se muer en une nouvelle bouleversante, oui, et laquelle allait dès lors bien vite se propager davantage.
Oh, mais c'est...
incroyable !
C'est incroyable !
Salut, les amis !
Te voilà enfin rentré, cher vieux incroyable ! Alors, quelle nouvelle de la capitale ?
Eh bien, vous n'allez pas en croire vos oreilles, mes chers copains ! Figurez-vous que le roi Client Premier est vivant ! Il est revenu lundi, en chair et en os, devant l'entrée de son château ! Et depuis, la capitale est en liesse !
Incroyable !
Et ouais, c'est mon nom.
Et plus encore que notoire, la nouvelle devint officielle lorsque les crieurs publics vinrent peu après à parcourir le pays pour annoncer, en bonne et due forme, le retour du roi magicien.
Oyez, oyez.
Et suite à cette annonce historique, il faut bien le dire, toutes sortes de bals et de festivités furent organisées, notamment à Voisinia, ce qui tendit dès lors à faire phosphorer l'économie locale et donc à inciter à l'embauche de personnel complémentaire. D'où donc la bonne fortune susmentionnée que rencontrèrent Sandrine, Kouni et Choua. Car oui, il se trouva que ces dernières purent obtenir, un peu par hasard, un entretien avec la vénérable autant que distinguée Madame Pissenlit, artisan couturière voisinienne de son état, et du reste, aux commandes d'une boutique renommée, notée 3 étoiles, et située non loin de la grande place. Nos trois amis fraîchement arrivés en ville purent convaincre la dite Madame Pissenlit, et ainsi, de fil en aiguille, si j'ose dire, elles décrochèrent tout un poste dans la dite maison de couture.
Oh, et vous dites... Mademoiselle Sandrine, que c'est vous qui avez cousu les robes que vous portez, vous et vos deux amis ? Ce n'est pas vraiment du grand art, loin de là. Mais au moins, vous avez un peu d'expérience, à l'inverse des gamines qui ont jusqu'ici postulé. Très bien, c'est d'accord, je vous engage.
Ah, quelle joie ce fut pour les trois voyageuses en quête de reconversion professionnelle, oui. Et ainsi donc, les contrats signés, le travail avait directement commencé, oui. Sandrine allait désormais tenir la caisse du magasin, tandis que les deux japonaises se retrouvèrent promues au poste de, disons, préposée à la suture filaire dans le département d'assemblage des produits textiles. Au sous-sol, hein.
On ne pourra certes pas dire que je décidais des cousus.
Mais bref, pendant ce temps, à la surface, les festivités consacrées au retour du bon roi disparu 10 années plus tôt battaient leur plein. Et ce faisant, comme les gens de la haute se mirent pour l'occasion à se faire confectionner robes, costumes de soirée et autres déguisements à tour de bras, la boutique de Madame Pissenlit s'en retrouva très vite submergée de commandes, ce qui ne fut pas une si bonne chose en fait. Car, voyez-vous, il se trouva ainsi que l'événement du retour du roi, aussi inattendu que source d'urgence, avait pris au dépourvu tous les commerçants, autant d'ailleurs que les ravitaillements en denrées et autres matières premières, lesquels ne purent pas toujours s'adapter à la situation, hein. Et c'est ainsi que la boutique de Madame Pissenlit s'en retrouva rapidement à court de différents matériaux nécessaires à la confection, dont le plus nécessaire était la soie. Oui, ce tissu doux, léger et luxueux, presque obligatoire pour satisfaire les exigences des clients de grandes maisons.
Ouais, la soie, ça va de soi.
Et oui, mes chers auditeurs, Madame Pissenlit s'en morfondait à présent dans son bureau, désespérée qu'aucun fournisseur ne pût à temps l'approvisionner, en soie comme en autre de ses tissus habituels, et si bien que la dame s'en retrouva dès lors à noyer son échec latent dans la liqueur de groseille. Au sous-sol, Kouni et Choua devaient pour leur part composer avec des pièces de textile vulgaires, issues de vieux sacs en toile ou de rideaux de fortune rachetés par désespoir à des particuliers alentours. Eh oui, Les choses en étaient là. Toute cette effervescence avait en fait, au bout du compte, désagrégé la tranquille quiétude et la sécurité dans laquelle Sandrine avait pu trouver refuge.
You spin me round, baby, right round, like a record, baby, right round.
Finalement, seul le tiers des commandes passées dans la boutique de couture lors de cette période avait pu être honoré.
Like a record, baby, right round, round, round. Never gonna give you up, never gonna let you down.
La respectable maison, notée 3 étoiles dans les guides locaux, perdit en prestige et s'en retrouva dès lors pitoyablement affublée d'une seule étoile.
Never gonna tell a lie and hurt you. Take on me. Take me on.
Et encore, une étoile à laquelle on n'avait même pas pris la peine de dessiner plus de 4 branches, ce qui renforça la disgrâce.
Sweet dreams are made of this. And who am I to disagree?
Pour subsister, le commerce de Madame Pissenlit dut faire des concessions et se recycler dans la vente de lingerie coquine. Marchandise, hélas, de qualité ordinaire, vu le désormais manque de fonds.
Don't you forget about me? Don't.
Et au grand chagrin des employés, adieu la prime de fin d'année et la cire épilatoire de fonction. En outre, Kuni et Shua durent se contenter d'un salaire pour 2. Mais bon, c'était ça ou supprimer le budget liqueur de groseille, lequel fut jugé prioritaire en haut lieu.
As you walk on by.
Bref, oui, plus morne était devenue la vie quotidienne suite à cette déculottée commerciale. Mais au moins, la boutique survécut-elle et Sandrine put-elle ainsi conserver sa situation. La dame âgée demeura donc à Voisinia, partageant son temps entre son travail de vendeuse et moult flâneries à l'intérieur de son petit appartement, où il lui arriva parfois de rêver avec tristesse à ses oignons.
Peut-être aurais-je dû faire comme Samuel, suivre mon propre conseil et en fait de fuir vers la ville, juste aller voir ce mage au sommet de la montagne. Pas forcément pour lui demander de faire repousser mes oignons, mais au moins pour chasser ces maudits Kevinson. Ou les faire se transformer en oignons, oui. Ça aurait fait d'une pierre 2 coups, ça. Mais d'un autre côté, vu ce qui est arrivé à Sam suite à son vœu, le pauvre qui se suicide, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette ville commence à m'étouffer. Je crois que j'ai envie de revoir un peu la nature, de retrouver les grands espaces verts. Mais comment, alors que nous n'avons droit à aucun congé?
Ah, pauvre Sandrine qui s'en trouva fort nostalgique, oui. Et les mois passèrent, semblables autant qu'insipides, et du reste, synonyme perpétuel d'une carence en congé. Eh oui, car bon, bah, vu la situation du magasin, bah, pas trop de congés pour les employés, tout ça. Hein. Et cependant, mes choupinets chéris, cette fade période de la vie de notre chère amie allait finalement nous mener jusqu'à ce jour où elle allait, près d'un an après son arrivée en ville, vivre pas moins qu'un nouveau bouleversement.
Vous proposez de jeter un œil à nos strings comestibles dans ce bac. Ils sont en promotion étant donné que la date de péremption est dépassée.
Ah, bonjour, ma bonne dame. Vous n'êtes pas Madame Pissenlit, n'est-ce pas?
Hein? Je suis juste la vendeuse, moi. Madame est dans son bureau. Voulez-vous que je...
Non, inutile de la déranger. C'est juste que, d'habitude, c'est elle qui tient le comptoir. Je viens ici depuis des années, vous savez. Et... lorsque je suis de passage à Voisinia, j'en profite pour acheter une robe à offrir à ma femme. Et bref, depuis 2 ans que je n'étais plus venu, j'ignorais qu'il y avait eu de l'embauche ici, entre-temps.
Oh, je comprends, mais c'est-à-dire que maintenant, pour ce qui est de l'achat d'une robe haute couture ici...
Oh, vous n'en avez plus en stock pour le moment. Bah, notez, ça explique du coup que tous les rayons soient uniquement remplis de sous-vêtements... Oui, vous comblez en attendant que Madame Pissenlit ait terminé ses nouveaux modèles, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'en entrant, à la vue de ses rayonnages et de vous au comptoir, j'ai cru m'être trompé de magasin. Mais bref, tenez, madame. J'étais juste passé apporter cette robe en soie sauvage, ornée de fils d'or. Je l'avais achetée ici même, voici 6 ou 7 ans. Et ma femme l'a tant portée qu'elle en a besoin d'être raccommodée. Je passerai à la fin de la semaine pour la reprendre, juste avant de quitter la ville. Je m'attends bien sûr à payer un montant exorbitant à la fin. Mais ce n'est pas un souci. C'est le prix de la qualité. Au revoir, donc.
Sandrine, on était bouche bée. Une commande de luxe, cela n'était plus arrivé depuis longtemps. C'était inespéré. Un client qui reconnaissait toujours à la boutique un haut pédigré. Et la tâche qu'il lui avait confiée promettait un revenu pécunier des plus élevés. Peut-être même de quoi se remettre à flot. De quoi refinancer le magasin pour qu'il reconquiert son prestige, jadis injustement perdu.
Et peut-être avoir des congés, enfin.
Aussi, gonflée par l'espoir, Sandrine fonça à la cave. Elle présenta la robe à Kuni et Shua, les petites mains de la boutique. Et les deux japonaises expliquèrent qu'il allait leur falloir du fil de soie hein, pour accommoder le vêtement en question correctement, oui, car toute autre matière allait inévitablement déteindre avec la finesse du tissu d'origine et ainsi faire ressembler leur travail à une médiocre tentative d'escroquerie, voyez-vous, oui. Mais hélas, triple hélas, oui, de la soie, mes chers auditeurs. Mais n'êtes-vous pas fous de songer que cette boutique, si tristement diminuée, eût encore pu disposer d'un matériau si précieux en ses stocks? Ah là là, mais quelle est donc cette candeur et cette naïveté que je ne vous connaissais pas, hein? Mais reprenez-vous, voyons, hein.
Allez, il faut que je demande à la patronne. Je sais qu'elle déteste qu'on la dérange quand elle s'enferme dans son bureau pour travailler, mais là, il y a urgence, hein. Allez.
Timidement, Sandrine pénétra dans le lieu de travail de sa respectable patronne. Et intimidée, baissant la tête et les yeux, notre amie s'avança de quelques pas à l'intérieur de la pièce et se confia avec courage à son employeuse qui, se trouvait être plus que jamais rongée de désespoir suite à sa chute et gisait du reste dans une posture fort peu glorieuse, hein, alors qu'elle somnolait dans son fauteuil, ivre morte et baignant dans ses vomissures de liqueur de groseille.
Pardon de vous déranger, hein, Madame Pissenlit, mais il y a une chose dont il faut que je m'entretienne avec vous. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, en vérité.
Et Sandrine expliqua.
Voilà, Madame, vous savez tout. Mais je suppose bien sûr que nous n'avons plus du tout de soie sous la main, hélas. Ah mince, j'en étais sûre. Et quand bien même nous aurions les fonds, je sais que le seul grossiste de la ville capable de nous en fournir a pris sa retraite le mois dernier. Et depuis, son commerce n'a été ni repris ni remplacé. Et si nous devons passer commande dans une autre ville, nous aurons trop peu de temps pour tenir notre engagement vis-à-vis de notre client. Comment ? Vous dites que les autres villes sont de toute façon en pénurie de soie parce que les dernières caravanes qui en amenaient des livraisons depuis le sud ont été décimées après avoir croisé le chemin d'une mystérieuse sorcière errante avec un manteau beige ? Seigneur, mais le sort s'acharne, misère !
Mais après un court instant, et contre toute attente, le regard de Sandrine en vint soudainement s'illuminer.
Oh, mais... et si... Madame Pissenlit, je vous en conjure, permettez-moi de quitter mon poste un jour ou deux. J'ai peut-être une solution. C'est un espoir de fou, mais c'est tout ce qu'il nous reste. Oh, merci, madame. Je ferai au plus vite.
En ne prenant plus que le temps d'emporter un linge, un ou deux outils et quelques provisions légères dans un sac à dos, Sandrine, avec une détermination qui lui donna vigueur et conviction, quitta d'un pas rapide et décidé la cité voisinienne, marchant droit en direction des plaines du sud-est. Et là, mes adorés auditeurs, l'on pourrait passer du temps à entretenir le mystère et à gamberger quant à ce qui pouvait bien passer par la tête de notre très chère Sandrine, mais... Fort heureusement, une jolie petite ellipse passait par là et allait nous mener pas moins que directement et sans plus de délai au point de destination de l'ancienne fermière où tout sera expliqué.
Ah, ça y est, je la reconnais. C'est cette petite cabane en bois où je m'étais réfugiée pour fuir le monstre. J'y suis arrivée.
Oui, c'était bien ça. Nous parlons effectivement en effet de cet abri abandonné, à l'intérieur duquel gisait de la soupe moisie sur une table, oui, ce chalet modeste que Sandrine un an plus tôt croisa, peu après son départ de son hameau natal.
Ah, et maintenant, reste à espérer qu'il est toujours là.
À partir d'ici, aux Mésouailles, il va sans dire que ceux qui ne dormaient pas durant la première partie de l'histoire ont sans nul doute subodoré ce qui va suivre. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est en crapahutant parmi les hautes herbes de la prairie bordant la bicoque en bois susmentionnée que nous observons Sandrine, laquelle scrutait le sol, cherchant à tâtons quelque chose que... qu'elle trouvait assez vite, en fait. Hein. Ce qui va encore nous faire gagner du temps, du coup. Hein.
Dieu soit loué, il est toujours là et intact.
Ah, mes adorés auditeurs, je ne puis, voyez-vous, que lever gracieusement mon verre de merveilleux martini à ceux et celles d'entre vous qui l'avaient deviné, hein. Oui, donc, hein, ce fut bien cet étrange monticule qui était venu chercher notre brave Sandrine. Cette masse longue et compacte, mais duveteuse en surface, et que la voyageuse avait conclu être un nid de ver à soie, après qu'elle eut buté dessus lors de son précédent passage dans cette région.
Ah, la soie est toujours parfaitement conservée, c'est une chance. Vite, emportons cela.
Sandrine sortit de son sac une petite paire de ciseaux qu'elle avait emportée et se mit à découper très délicatement la couche soyeuse qui recouvrait la masse.
Mais que...
La dame avait soudainement affiché une expression d'étonnement alors qu'elle découvrait peu à peu la masse compacte qui, jusque-là, était demeurée voilée. Sandrine passait ensuite de l'étonnement à l'effarement à mesure qu'elle pratiquait la découpe et dégageait davantage le monticule. Elle en fut d'ailleurs si intriguée, mes auditeurs, si accaparée, que notre pauvre ancienne planteuse d'oignons ne sentit point poindre en son dos un prédateur prompt à en découdre. Oui, mon merveilleux public, c'était à nouveau le spermatozoïde géant de César qui avait surgi des hautes herbes, lui qui rôdait toujours dans le secteur, malgré les nombreux mois passés. La dite cellule, de la taille d'une chèvre, se tenait là, prête à bondir et... Tiens, on pouvait d'ailleurs remarquer de nombreux vieux lambeaux de peau d'animaux collés sur elle, ça et là. Hein. Quelques vestiges des occupations pénétrantes auxquelles avait vaqué ce gamète durant tout ce temps, vraisemblablement.
Hein. Ah, j'y crois pas. Il y a même une grenouille encore vivante qui s'est retrouvée ventousée par derrière contre sa surface, là, tout à l'avant.
Mais bref, se redressant alors, terrifiée et pivotant sur elle-même tout en reculant, la pauvre Sandrine chut une fois de plus sur le sol en trébuchant sur la forme soyeuse.
Ça faisait longtemps.
Affalée sur le sol, derrière le nid duveteux qui l'avait encore fait choir, la pauvre Sandrine, épuisée et tétanisée, ne bougeait plus. Impuissante, elle regardait l'énorme cellule avancer lentement vers elle, se tortillant comme pour affiner sa forme en vue de mieux s'immiscer en elle. Et puis soudain, un étrange bras jaillit juste devant Sandrine, entre elle et le monstre. C'était un bras noirâtre qui semblait n'être couvert de peau, mais d'un genre de carapace rugueuse et poilue. Et ce bras sortait de la masse soyeuse qui gisait à même le sol, juste devant la pauvre Sandrine, laquelle était complètement perdue face à cette vision insensée.
Je confirme.
Mais ce ne fut pas tout, mes adorés auditeurs, fichtre non, car un deuxième bras surgit également. Et à la forme susdite de se contorsionner, sous l'œil hébété de Sandrine et la circonspection du spermatozoïde géant, accessoirement. L'enveloppe soyeuse finit par se déchirer entièrement, ce qui laissa place à une forme bondissante. C'était incroyable!
Oh, mais comment ce puce? Est-ce un oiseau? Est-ce un aéroplane?
Exactement! Cette créature étonnante surgit au milieu de cette prairie à l'abandon. C'était... Bourdonnemann, l'homme-abeille. Ce citoyen autrefois prénommé Jean-Jacques, rappelez-vous mes auditeurs, oui, pauvre bougre qui fut piqué par une guêpe tropicale pour ensuite devenir cette étrange créature, mi-homme, mi-insecte.
Coucou, c'est re-moi.
Et il se tenait là, héroïque et radieux, debout entre une Sandrine abasourdie et un spermatozoïde très perplexe.
Oh, mais ma bonne dame, mais qu'est-ce que je vois, dites donc? Il y a ce gros machin qui vous embête, on dirait. Vous voulez que je vous aide, hein, dites. Parce que moi, j'adore ça aider les gens, vous savez.
Je ne dis pas non. C'est très gentil.
Ah, chic. À nous deux, gros tétard.
D'un geste vif, Bourdonnemann fit un bond en l'air. Il pointa ce faisant en direction du monstre, son dard, noir et rigide aiguillon à l'extrémité de son imposante prolongation dorsale, avant de foncer en avant.
Banzai! Aïe! Oh là là, mais ça fait mal!
Une courte, mais intense, scène de combat venait d'avoir lieu, mes fidèles auditeurs. Bourdonnemann venait d'infliger une sévère piqûre à l'énorme spermatozoïde de César, mais ce geste lui coûta son dard, lequel s'était brisé et resta planté dans la membrane cellulaire, tandis qu'emporté dans son élan, l'homme insectoïde était pour sa part allé s'étaler quelques mètres plus loin.
Ah, bobo!
Cependant, ce pugilat préalablement révolu par un double chaos prit dès lors une tournure surprenante. Car le spermatozoïde, terrifié et secoué de spasmes, se mit soudainement à enfler. Oui, ce sont là les effets du venin bourdonnemannien que nous connaissons bien, mes auditeurs. Et à la cellule prédatrice, donc, de gonfler encore et toujours plus, doublant, triplant de taille. Et alors qu'il n'était plus très loin d'atteindre un volume quadruplé, il arriva au spermatozoïde overdosé de venin, ce qu'il devait arriver. Oui, ainsi périt la dernière cellule vivante de César, le comptable frigide, projetant alentour des lambeaux de tissu, mêlés d'éclaboussures d'un genre de gel translucide qui sentait le poisson.
Oh, monsieur, vous n'avez rien ?
Aïe ! Ben si, j'ai cassé mon dard. Ça fait comme une migraine dans mes fesses.
Venez, voilà, relevez-vous. Mon pauvre, je suis désolée. Et tout ça parce que vous m'avez vaillamment aidé. Je ne sais pas comment vous... Aïe, aïe.
Ah, mais qu'est-ce que... Oh, mais c'est mon dard.
Ah oui, en effet. Il a dû être éjecté dans les airs lorsque le monstre a explosé. Et là, il est retombé pour se planter bien droit, pile dans mon avant-bras. Ah, ça pique et... Mais que m'arrive-t-il ?
Eh oui, mes chers auditeurs, vous l'avez compris. Le fameux venin de Bourdonnemann, ce venin qui n'avait rien de commun, était, encore une fois, en train d'agir en tant qu'allergomutagène des plus virulents. Car le bras de Sandrine était en train de gonfler, mais à vue d'œil, attention. Et le spectacle était terrifiant. Et elle était paniquée, la pauvre Sandrine. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et puis voilà que, tout entière, elle se mit à enfler et enfler jusqu'à devenir un énorme blob pustuleux et hideux.
Oh mon Dieu, mais que m'est-il arrivé ? Je suis devenu un monstre !
Mais non, voyons !
Oh, arrêtez ! Oh, vous me direz, j'étais déjà vieille et potelée, ça ne me change pas beaucoup, mais je me serais bien passé de cet incident ! J'espère que c'est curable au moins !
Oh, mais moi je vous trouve très attirante comme ça, vous savez, hein !
Rien d'étonnant à cela, non, car finalement, pour la parcelle non humaine de l'esprit de Jean-Jacques, alias Bourdonnemann, le gros blob qu'il avait devant lui ressemblait à s'y méprendre à une larve d'insecte mellifère, oui. Et notre ami ailé ne pouvait dès lors que percevoir en lui une petite jeunette sexy de son espèce, oui. Hein. Et aussi tomba-t-il immédiatement sous le charme de Sandrine le blob.
Mais je vous jure, vous êtes super sexy, ma jolie. On se fait un bisou, hein, dites, hein.
Je suis flatté, monsieur, mais j'aimerais mieux trouver un remède. Je dois rapidement retourner à Voisinia. Et vous, comment vous portez-vous, en fait ? Vous n'êtes pas en danger d'avoir perdu votre nage ? Est-ce que ce n'est pas comme ça que les abeilles meurent, normalement ?
Oh, oui, c'est vrai que je me sens pas bien du tout. C'est pour ça que je me suis dit un petit bisou pour guérir, non ?
Bien que rendue très anxieuse par les derniers événements et cette situation très complexe, Sandrine fit intensément fonctionner son esprit en vue de trouver une solution.
Oh, mon Dieu, que faire ? Aucun médecin ne pourra soigner un homme insecte. C'est très probablement un spécimen unique. Et il ne doit pas fonctionner comme nous. Et de fait, aucun médecin n'aura de remède contre son venin. C'est terrible.
Peut-être que si on tue le bourdon originel qui m'a piqué, ça rompt le sort, non ?
Mais c'est ça, un sort de la magie.
Ou alors, je dois aller leur demander pardon d'avoir emmuré leur nid, et ils lèveront un genre de malédiction qu'ils m'avaient jeté en représailles avec une petite effigie en cire de moi.
Seul un mage pourrait nous aider, vous à vous éviter la mort, et moi à retrouver ma forme.
Ou si c'est une malédiction comme celle de la Belle et la Bête, ça veut dire que je dois trouver l'amour pour en être libéré. Et ça, ça relance l'idée du bisou. Toujours pas, donc
L'évidence s'impose. Nous allons devoir nous rendre au sommet de la montagne du centre afin d'y rencontrer le vieux mage. Même si je continue d'être anxieuse à cette idée quand je repense au sort de Samuel.
Bah sinon, il y a cette jeune sorcière dans les bois de l'Ouest, là. Paraît qu'elle file des soins magiques par-dessous la table pour de l'argent. Et c'est vachement moins loin que la montagne.
Mince, mais c'est vrai. Oh, mais vous m'épatez, monsieur. Et ça tombe bien, j'ai justement quelques piécettes dans mon sac. Venez, portez d'ailleurs mon sac, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas avec mes mains en boudin. Allez, venez, dépêchons-nous. Vos heures sont sans doute comptées, hein. Et moi, j'ai une boutique à sauver.
Et alors que nous voyons nos deux protagonistes parcourir les routes, bras dessus et bourrelet dessous, mes chers auditeurs, j'en profite pour occuper ce temps de trajet en vous livrant une explication qui aura sûrement fait défaut aux plus attentifs d'entre vous. Car en effet, hein, vous dûtes tout à l'heure ergoter...
C'est quoi ce délire ? Il était mort du coup du lapin, Bourdonnemann. Pourquoi c'est qu'il revit alors ?
Mais vous avez raison. Le brigand à l'aide avait effectivement ainsi oxy le pauvre Jean-Jacques. Cependant, ce dernier, laissé à gésir là pour mort, avait par un heureux hasard dû à sa génétique d'homme abeille une autre faculté très particulière, oui. Voyez-vous, son corps avait sécrété de la soie pour se confectionner un cocon protecteur. Et telle une chenille se mettant à l'abri afin de devenir chrysalide, le corps de notre brave Bourdonnemann s'était-il ainsi protégé, le temps de se régénérer, ressoudant sa nuque brisée et faisant repousser son dard jadis arraché par Suzy. Mais une année entière à rester là, en dormance, pour guérir de ces quelques blessures, n'est-ce pas un peu long, me demanderez-vous,
ouais.
Eh bien, certes, si, ça l'est, mais... Je vous renvoie, mes chers, bien que sceptiques amis, vers le bonus numéro 8 qui vous rappellera sans nul doute l'inefficience de l'organisme de notre estimé Jean-Jacques et qui justifie tout ceci, hein.
Regarde, Sandrine, on n'est plus très loin. D'ailleurs, voilà l'orée du bois de l'Ouest, avec tout droit devant nous, Oreo, le village d'à côté.
Je le reconnais, oui. Mais on va le contourner, hein. D'accord, Jean-Jacques?
Et oui, je parle. Hein. Et pendant ce temps, nos personnages avaient parcouru une bonne partie de leur itinéraire, oui. Hein. Et durant cette marche, hein, longue et difficile, étant donné leur état physique respectif, Sandrine et Bourdonnemann, tous deux des gens simples et de bon caractère, qui plus est liés dans la fortune, avaient plutôt bien sympathisé, hein, il faut le dire. Hein. Et cela sans compter que Sandrine, hein, se sentait redevable, hein, d'avoir été secourue par son nouvel ami.
Ouais, mais j'ai toujours pas eu mon bisou.
Mais cela mis à part, oui, que voulez-vous, mes chers audiolecteurs, hein? Si nous sommes émus, nous, par cette connivence naissante entre deux êtres, il allait de soi que la vision de deux créatures difformes, appuyées l'une contre l'autre pour maladroitement s'entraider à se mouvoir, n'allait pas forcément faire fondre tout le monde.
Hein? Oh bordel, mais qu'est-ce qu'on s'extraire, là, donc?
Tiens, ça vient de derrière nous. Attends, on se retourne, hein?
Oui, attendez. Voilà. Oh, mais je rêve. C'est la vieille peau de l'autre fois, celle qui me cachait le panneau.
On dirait qu'elle revient des champignons et qu'elle s'apprêtait à rentrer au village. Ça va, madame? La pêche a été bonne?
Oh putain de merde! Oreo est attaqué par des monstres! Ah non! Ah non!
La vieille dame disparut vers l'horizon, abandonnant dans sa fuite son panier à champignons qui tourna quelquefois dans les airs avant de choir sur le sol. Sandrine et Jean-Jacques, eux, n'échangèrent plus de commentaires qu'un regard amusé, puis poursuivirent leur route en pénétrant dans les fameux bois de l'Ouest, suivant un sentier qu'ils rejoignirent un peu plus loin.
Oui, mais j'ai d'abord proposé qu'on rattrape la dame pour lui rendre ses champignons.
Et au terme de près de 2 heures de déambulation, nos deux voyageurs difformes arrivèrent enfin dans une petite clairière jouxtant une jolie rivière à l'eau claire et au centre de laquelle gisait un chalet. Oui, mes amis, c'était bien là le foyer de notre chère Marianne.
Bonjour, madame la sorcière, vous êtes là? On entre, hein. Ça ne fait jamais que la troisième maison en bois que je croise et la troisième porte que je pousse avec inquiétude dans cette histoire, hein. Mais apparemment, ça n'interpelle que moi, hein.
Eh ben, c'est tout sombre ici.
Oh là, qui êtes-vous?
Bonjour, monsieur, le vieil homme barbu et tout de blanc vêtu qui vient de surgir de derrière cette grande bibliothèque. Nous cherchons la demoiselle qui vit ici.
Marianne.
Oui, voilà.
Alors nous avons un but commun, semblerait-il. Mais que lui voulez-vous à Marianne et, pardonnez la question, mais quel genre de créature êtes-vous?
Soyons attentifs à cette scène, mon public chéri, car il se joue ici un pivot dramatique des plus déterminants. Vous aurez sans nul doute reconnu ce vieil homme barbu et tout de blanc vêtu, je présume. Oui, il s'agissait bien de ce cher vieil Archibald de Berlu, tout juste renvoyé sur terre en tant que Berlu le Blanc, selon la volonté du dieu Rodalex et afin de contrer le démon Mont-Saint-Clair. Aussi, le druide ressuscité était venu dans cette cabane. Il projetait d'y retrouver, voyez-vous, l'une des clés du projet divin, et qu'il se trouvait être Marianne elle-même, oui. Mais cette dernière s'en était allée quelques jours plus tôt, possédée, rappelez-vous, par une force maléfique.
Voilà, monsieur, et c'est comme ça que mon ami et moi-même en sommes arrivés ici à venir chercher de l'aide auprès de cette jeune magicienne. Vous savez si elle revient bientôt? Oh, mais en fait, êtes-vous un parent à elle? Ou peut-être même seriez-vous vous-même magicien?
Ouais, puis au niveau des tarifs, vous prenez plus ou moins qu'elle?
Berlu était un homme profondément cultivé, autant qu'il était doué pour organiser les choses de façon optimale. Et à la vue de ces deux créatures pittoresques, mais néanmoins génétiquement atypiques, lui firent se souvenir de ses lectures passées, des œuvres de, ou traitant, de Jean Grunt, le fondateur de l'Ordre des Mutants.
Aux dernières nouvelles, le trône du temple est toujours vacant. Cela fait longtemps qu'aucun mutant parmi les recrues ne fut plus suffisamment exceptionnel pour mériter d'être élu leur chef suprême. Et ces deux-là semblent physiquement si profondément marqués par leur mutation. Oui, cela pourrait fonctionner. Et cela me fournirait un renfort bienvenu pour retrouver au plus vite Marianne et le livre dans ce vaste monde. Je peux le tenter, oui. Berlu se pencha et tendit la main, marmonnant quelques formules d'une voix à peine audible, et ce qui fit, mes chers auditeurs, repousser le dard brisé de Bourdonnemann.
Oh super, t'as vu Sandrine? J'ai de nouveau un dard! J'ai de nouveau un dard!
C'est malin! En dansant et en tournoyant, tu as planté ton dard dans le bois de cette bibliothèque là, et bah du coup il s'est recassé, hein!
Ah, merci! Bon, je vais danser, mais dehors cette fois.
C'est-à-dire qu'il y a plein d'arbres dehors, donc on n'oublierait pas la danse?
Madame, pardonnez-moi, mais vous, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je ne puis défaire le changement qui vous accable, car il n'est pas d'origine magique.
Oh zut! Vous êtes vraiment sûr?
Mais je te le redis, ma Sandrine! Tu es très bien comme ça, change surtout pas!
Oh. D'un autre côté, je dois admettre que cette transformation a du bon. Intérieurement, je me sens comme plus jeune, revigoré depuis que c'est arrivé. Mais bon, c'est hideux, toutes ces pustules, quand même.
Et que diriez-vous tous les deux si je vous emmenais dans un endroit où vous seriez non seulement à l'abri du besoin, mais où, également, vos particularités seront admirées et enviées?
Vous rigolez? Comment se pourrait-ce? Vous ne parlez quand même pas de nous embaucher dans une foire, au moins?
Il y a des barbes à papa dans les foires!
Approchez-vous tous les deux. Je vous demande de me faire confiance. Vous ne le regretterez pas et vous aurez l'occasion d'aider pour une grande cause. Venez et fermez les yeux. Un halo blanc éclatant et aveuglant émana soudain de l'enchanteur. Berlu et ses deux passagers traversèrent alors l'espace, téléportés ensemble vers le sud-est du royaume, dans cette région que l'on nomme communément les Landes imbibées.
Hé, Soufflade, t'as vu? C'était quoi ce flash blanc, là, qui a brusquement éclairé notre temple qu'on aperçoit d'ici, au loin, dans l'horizon?
Ah, j'en sais rien, c'est leur problème, Binocle. Nous continuons d'avancer. On a une mission de recrutement à effectuer, je te rappelle.
Je sais.
Berlu le Blanc se présenta aux habitants du temple mutant, ainsi que ses deux invités, Bourdonnemann et Sandrine le Blob. Tous sur place furent émerveillés par leur aspect si génétiquement évolué, ainsi que par les dons de l'homme-abeille, lui qui était autant capable de voler que de sécréter un venin aux propriétés si incroyables.
Voyez, je pique cette pomme et hop, elle mute.
Ce venin a pour ainsi dire le même pouvoir que les pierres vertes, c'est ahurissant.
Après délibération des fonctionnaires responsables, Bourdonnemann fut reconnu comme un mutant de classe 3Q, soit le plus haut degré de mutation jamais atteint par un humain. Aussi, notre ami fut-il immédiatement nommé chef de l'ordre, ce qui lui conféra une suite luxueuse, une autorité totale et une vie opulente.
Miel à volonté, c'est la classe!
La première action du nouveau chef des mutants fut de demander sa main à Sandrine, laquelle accepta sans hésiter, émerveillée par le revirement inattendu que prenait sa vie. Et ensuite, Jean-Jacques, l'homme bourdon, toujours de nature à aider son prochain, nomma Berlu grand conseiller. Ce dernier put ainsi piloter la confrérie au bénéfice de la mission divine qu'il menait, tandis que le couple nouvellement formé allait vivre heureux, profitant du luxe et du respect profond qu'on leur offrait, le tout dans la plus parfaite harmonion. Eh oui, mes adorés auditeurs, ainsi les arcs de Sandrine et de Bourdonnemann également en parallèle eurent-ils, malgré que nous l'ignorâmes jusqu'ici, un impact important dans la lutte contre le démon Mont-Saint-Clair. Il est à noter par ailleurs que Sandrine, usant de son autorité nouvelle, fit trouver du fil de soie dans les vastes réserves du temple, pleine bobine qui fut ensuite livrée d'urgence à Voisinia, à Kunyeshua, hein. Ah, ce geste loyal ne permit cependant pas à la boutique de Madame Pissenlit de regagner en prestige, mais au moins, l'argent gagné ainsi remit un peu de beurre dans les épinards, hein. Ou, enfin, de liqueur de groseille dans les verres ici dans ce cas. Hein. Cependant, cette histoire n'est pas tout à fait terminée, non, car il existe un dernier détail à mentionner, oui. Et dirigeons-nous pour cela vers le nord-ouest, jusqu'au fameux hameau qu'avait initialement quitté Sandrine. Car pendant que les heureux événements du temple mutant se déroulaient, le dit bled paysan allait lui aussi avoir droit à sa dose de réjouissance.
Oh dis donc, Kevin, t'as vu sur le sentier là-bas, t'es... On dirait qu'on a un visiteur. Ah bah ouais, tiens, t'es... Mais c'est-y pas plutôt une visiteur, dis si tu regardes bien.
Ah bah si, t'as raison.
Ah bah dis c'est mémé. Ah bah si je m'entends, dis oh.
Ainsi sommes-nous revenus à l'ancienne ferme de Samuel, plus exactement au milieu du champ, dont la terre nue ne portait aucune pousse. Et justement, nos amis Kevinson finissaient d'y reboucher un grand trou dans lequel ils venaient d'enterrer en entier un plein sac de graines de carottes, à des fins d'ensemençage, sembla-t-il. Oui, on avance, mais quelques détails essentiels quant à la pratique de l'agriculture semblaient encore et toujours échapper à ces pauvres paysans novices.
Et comment que ça va, mémé? Ah ben ça fait plaisir de voir que t'es viendu pour nous visiturer, enfin, hein? Ouais, t'as vu, hein? C'était ça la ferme que c'est quand on avait grosé l'autre fois, t'es. Et donc finalement, t'es viendu pour t'installer avec nous, alors?
Ah ben oui, les enfants, hein? Oreo, ils sont devenus bien dangereux et mal fréquentés, hein, ces temps-ci. Faut-il pas qu'on y croise des monstres, maintenant, hein? Ah, alors ici, eh ben je serais bien plus à l'abri, hein, t'es.
Ouais, t'avions bien raison, Béné, hein. Comme ça, nous ici, on reste entre gens,
Dis Kevin, au fait, hein, on pourrait-il peut-être pas faire une grande fête pour fêter que Mémé, elle vient dû vivre ici, de...
Ah ouais, tu... Et qu'on inviterait toute la famille du pays et tout. Ah ben, ça va être bien, ça.
Ah ben, ouais, hein. Et puis comme ça, pour manger, hein, on pourrions goûter ce que vous faisiez pousser ici, hein, tu...
Ah, eh bien voilà, hein. Ah, quel gros bonus ce fut, hein, n'est-ce pas, mes fidèles auditeurs, hein. Mais après cette petite digression, hein, ce petit moment de lore superflu tant qu'agréable, hein, je vous invite, mes chers amis, à nous resservir un merveilleux verre de martini, après quoi nous allons donc reprendre, oui, le cours normal de nos histoires.